Excusez-moi si j'ai de la peine à rebondir, mais voilà. Il faut tourner, il faut avancer un petit peu. Nouvel an est propice aux bonnes résolutions. Quelles bonnes résolutions avez-vous pris pour cette nouvelle année? N'oubliez pas que Dieu est à l'écoute et qu'il vaut mieux prendre une bonne résolution et la tenir que plusieurs et les trahir. Proverbe 20 nous dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Deutéronome, à propos toujours des vœux, « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. » Et Matthieu encore, plus fort, « Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Nous avons avec Dominique étudié ces dernières semaines ou ces derniers mois les petits prophètes. Les petits prophètes Agée, Zacharie, Malachie, Esdras et Néhémie. Ils ne sont pas appelés petits prophètes parce qu'ils sont physiquement petits, mais tout simplement parce que leurs écrits sont petits. Mais leur message n'en est pas moins important. Ils dénoncent l'injustice, l'idolâtrie et l'hypocrisie religieuse. Et ils appellent à la repentance, à la fidélité à Dieu. Est-ce que les petits prophètes sont une lecture de chevet pour vous? Je vous le conseille vivement, même si cela semble un peu rébarbatif, si j'ose dire. Il y a eu dans les années 80 de 2000 un mouvement qui propageait une très mauvaise pensée, qui disait que la lecture de l'Ancien Testament était inutile, rébarbative et violente. Malheureusement, cette pensée se poursuit encore aujourd'hui, mais sous une toute autre forme. C'est la théorie de la substitution. Personnellement, à cause de cette influence, pendant de nombreuses années, je ne me suis pas attardé à l'Ancien Testament, malgré tous les renvois de la concordance du Nouveau Testament sur l'Ancien Testament. Mais j'ai fini par m'y plonger, et bien sûr sans regret. J'ai découvert un Dieu plein d'amour pour nous, infiniment bon et patient, souffrant de nous voir courir sur le chemin de l'éloignement ou de la perdition. C'est aussi un éclairage puissant de l'œuvre de Jésus jusqu'à la croix. Je ferme la parenthèse pour revenir à la lecture des petits prophètes. Il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux lors de cette étude, qu'on n'y avait pas fait attention auparavant, que je vais développer. Le peuple est de retour de l'exil de Babylone, ne pas confondre avec l'Exode. Nous sommes en 538 avant Jésus-Christ. La première vague est composée d'environ 50 000 personnes. La deuxième vague, 120 ans plus tard, de 2000 personnes. Et la troisième vague, 20 ans plus tard, la parole nous parle d'un petit groupe. La distance parcourue pour rentrer de Babylone, sur les chemins de l'époque, est d'environ de 1200 à 1500 km. Et pas besoin de préciser que ça s'est fait à pied. Beaucoup de Juifs sont restés à Babylone, bien installés, excusez-moi du terme, embourgeoisés, et la distance en a rebuté peut-être plus d'un. Lors de l'exode d'Égypte, c'est environ 2 à 3 millions de Juifs et d'accompagnants qui ont quitté l'Égypte. Esdras et Néhémie montrent que seule une minorité est revenue de Babylone. N'y voyons-nous pas là une similitude avec nous? La distance entre notre confort et l'œuvre du Seigneur est tout aussi grande. Le premier groupe est arrivé dans la ville de Jérusalem, complètement détruite. il ne restait pas pierre sur pierre de la ville, du temple, de la muraille et de l'autel. Vous venez de parcourir plus de 1000 kilomètres à pied, vous êtes épuisé, complètement découvert. En effet, les ennemis alentours guettaient la moindre occasion, excusez-moi du terme, une si belle occasion de les attaquer. Attaquer le peuple sans défense et épuisé. Ézéchiel 36 nous dit « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Vous arrivez là sur un champ de ruines. Qu'auriez-vous, humainement parlant, fait à leur place? Personnellement, j'aurais rebâti la muraille afin de protéger le peuple de ses ennemis. Ensuite, le temple, afin de donner au peuple un lieu de rencontre et de culte avec Dieu. Et pour terminer, l'autel des sacrifices. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est déroulé. Dieu a réalisé sa promesse. Elle se réalise là, sous leurs yeux. Et le peuple a pleinement confiance en Dieu et il lui est profondément reconnaissant. Je vous imaginez qu'après un tel périple, si je vous dis, il n'y a plus que Dieu qui est là pour vous aider, 1500 kilomètres plus loin que Babylone, à pied, fatigué, eh bien on se dépose entre les mains de Dieu parce qu'on n'a rien. Et Esdras nous dit, Esdras 3, « Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. » Ils rétablirent l'autel sur ses fondations. Malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région, ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Dieu est là tout au long du parcours, de Babylone à Jérusalem et au rétablissement du peuple. Arrivez-vous, imaginez là un instant, au milieu de cette désolation, un autel reconstruit. Et qu'est-ce que cela signifie pour le peuple et spirituellement pour nous, aujourd'hui en 2026? C'est replacer Dieu au centre avant tout le reste. C'est le rétablissement de la relation avec Dieu. Le peuple est fragile, en ruine, pas sécurisé, épuisé. C'est, cet autel, adoration avant organisation, relation avant protection, Dieu avant les projets. L'autel est le lieu du sacrifice, de l'expiation et du pardon. Spirituellement, cela signifie reconnaître sa dépendance à la grâce, accepter que la restauration commence par le pardon et pas par la performance. Là aussi, à l'autel, c'est le moment où l'on dit « Seigneur, je commence par toi, avant de réparer notre vie, nos blessures. » C'est reconnaître ses égarements. C'est oser revenir à Dieu, s'enfuir ni se cacher. L'endroit où l'on dépose sa culpabilité, sa honte, ses échecs. Revenir à Dieu avec honte et ses échecs, n'est-ce pas une victoire? Dieu connaît tout de nous, et si l'on s'approche de lui avec sincérité, il nous accueille à bras ouverts. Aujourd'hui, c'est revenir à la croix, admettre que l'on ne se reconstruit pas seul. C'est une obéissance malgré la peur. Spirituellement, l'adoration devient un acte de foi. Il n'y a rien d'autre autour. L'obéissance précède la sécurité. Pour aujourd'hui, choisir de prier, obéir même quand les circonstances font peur, poser des actes spirituels avant que tout soit rassurant. Une continuité sur les fondations anciennes, comme on l'a lu dans Esdras. Spirituellement, c'est le retour aux bases, fidélité à ce qui a été transmis. À propos de cette transmission, c'est une idée que j'expose, ne resterait-il pas quelque chose au fond de nous que nous avions avant la chute, une base qui ne demande qu'à être réoccupée? Aujourd'hui, cela invite à revenir à une foi simple et authentique, redécouvrir les fondements bibliques plutôt que de chercher du nouveau à tout prix. C'est une restauration progressive. L'autel ne signifie pas que tout est terminé. Il marque le début. Tout ne s'est pas reconstruit en un jour, bien au contraire. Spirituellement, Dieu commence par le cœur. La vraie reconstruction est un chemin. On peut être encore en ruine extérieurement, mais déjà réconcilié intérieurement. Je relis. On peut être en ruine extérieurement, mais être déjà réconcilié intérieurement. C'est un peu comme le premier jour de notre nouvelle naissance. Quel chemin encore à parcourir, mais Dieu est là dès la première seconde de notre nouvelle vie avec lui. En résumé, la reconstruction de l'autel représente aujourd'hui le retour à Dieu avant le confort, la grâce avant la structure, l'adoration avant la sécurité. Je vais développer la symbolique du temple et de la muraille, mais je vais faire court, juste pour vous donner l'eau à la bouche et que vous allez approfondir l'étude de ces petits prophètes. Ne sommes-nous pas le temple du Saint-Esprit ? Ne sommes-nous pas le temple là où Dieu désire habiter ? La reconstruction du deuxième temple représente bien plus qu'un chantier religieux. C'est un signe de renaissance intérieure, de fidélité retrouvée et d'espérance. La destruction du premier temple avait été comprise comme un signe de rupture. La reconstruction du second temple symbolise le pardon accordé par Dieu, la fin d'un temps de jugement, le retour à une relation vivante avec lui. C'est aussi une responsabilité collective et personnelle. Le temple devient aussi le symbole d'une communauté restaurée. La relation avec Dieu ne peut être séparée de la justice, de la fidélité et de la solidarité communautaire. Nous devons tous tirer à la même corde, même si l'on n'a pas tous les mêmes projets. Mais s'il est conduit par Dieu, il doit avoir le soutien de toute la communauté. Sinon, l'édifice ne prend pas forme. Lors de la reconstruction du temple, il y a eu de l'opposition intérieure et des attaques extérieures. Il aura fallu l'intervention des petits prophètes pour corriger et conduire le peuple. En résumé, la reconstruction du deuxième temple représente la renaissance après l'épreuve, la fidélité de Dieu plus forte que la ruine, une foi plus humble intérieurement, et l'appel à reconstruire sa vie avec Dieu. Les prophètes appelaient continuellement, le peuple à se repentir. Aujourd'hui, repentir veut dire se convertir. Si l'on n'est pas converti, ce n'est pas reconnaître que de sa naissance, on est cohéritier d'une nature fondamentalement pécheresse. Marc 1,5, Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croire, tous nous croyons, mais sommes-nous tous convertis? La conversion, c'est revenir à Dieu. On n'est pas chrétien de père en fils ou de mère en fille. C'est un retour vers Dieu, un Dieu que l'on a tous rejeté, abandonné lors de la chute. Une remise en ordre de la relation avec Dieu, la rupture avec le péché originel. Reconstruire son temple intérieur, si l'on veut que Dieu y habite. Zacharie 1, « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Ce n'est pas un rite, mais c'est un mouvement du cœur. Aujourd'hui, ce n'est plus un temple de pierre, mais Christ lui-même. Puis le cœur de chaque croyant comme demeure pour Dieu. Et la reconstruction de la muraille, cette relation doit être protégée et incarnée. Une fois le cœur réorienté vers Dieu, il faut se préserver cet espace sacré, renouveler une identité claire, poser des limites. Dans le livre de Néhémie, la muraille est reconstruite au milieu des moqueries, des menaces et des découragements, des tentations. N'est-ce pas là notre lot quotidien? La lecture quotidienne de la parole, n'est-ce pas la muraille que l'on construit pour se protéger des attaques du monde? Si on se laisse tomber dans une addiction, une paresse spirituelle, la muraille finit toujours par céder, et après le temple pourra être détruit. Et je vous laisse ce verset d'encouragement pour poursuivre la reconstruction de votre autel, de votre temple ou de votre muraille. C'est Deutéronome 31. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. N'est-ce pas une bonne résolution pour commencer cette nouvelle année? Et on se rappelle qu'on a eu le désir d'être des petites lumières dans ce monde. Ces petites lumières, là, posées sur une branche morte, peuvent être un symbole assez puissant. Merci de votre écoute et je vous souhaite un bon dimanche.